Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
Un temps encore, je crus que cette mort-là était la seule qu'il me serait donné de connaître avant la dernière, celle dont on n'est pas censé se relever, celle qui vous amène de l'autre côté, dont tout le monde parle et que personne ne connaît. Ce côté peuplé de gens qui ont été bien gentils ou bien repentants dans la vie, c'est selon. Pourtant, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ce deuil n'était que le premier d'une longue série. Citation page 11 du tout nouvel ouvrage de Marie-Christine Horn, Le nombre de fois où je suis morte, aux éditions Okama, collection Oka Poche, littérature, un recueil de 13 nouvelles. Je viens de lire une citation d'une des toutes premières nouvelles qui est la perte de l'enfance et prise de conscience qu'on va perdre d'autres choses dans la vie. Donc c'est la mort, mais pas n'importe laquelle. C'est pas la mort finale, c'est le nombre de fois où je suis morte sous une inclination féminine, par ailleurs très intéressante. On a le plaisir au Radio Littéractif et à Radio Cité Genève de rencontrer Marie-Christine Horn à la gare de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez franchi le canton, hein, vous êtes originaire de Fribourg et là vous arrivez sur Genève pour, heureusement nous les Genevois, échanger autour de votre puce. Un petit ouvrage absolument savoureux et exquis, 13 nouvelles qui parlent d'une petite mort dans différentes déclinaisons. Alors moi ce qui m'a frappé déjà pour commencer, c'est comme vous empoignez des thèmes et vous les insérez dans des personnages, chaque fois avec une tonalité différente. Il y a des narrations en je, d'autres en tu. Et comment vous montez dans votre nouvelle une sorte de montée en tension avec une chute plus ou moins abrupte, parce qu'il y a un petit côté quand même cynique parfois dans votre analyse des personnages. Prenons par exemple l'affaire de la nourriture dans cette nouvelle où on est dans une mort particulière, c'est le rapport au corps, à l'alimentation, un récit en tu. Et ce qui m'a frappé, c'est comme vous amenez cette jeune fille dans votre récit à montrer comment elle va se priver de nourriture progressivement. Et on pourrait presque dire psychiatriquement, vous décrivez ce qu'est la dysmorphophobie quand à un moment donné, elle a un rapport au corps déformé. Elle le voit forcément plus gros qu'il n'est. Comment vous arrivez à tisser ce regard tout à fait pertinent, quasi clinique, sur cette vignette-là ?
C'est un danger, je dirais, que beaucoup d'adolescentes subissent, ces troubles alimentaires. Là, on parle de l'anorexie, mais ça pourrait être un autre trouble alimentaire. Quel rapport faussé qu'on a au corps par rapport à l'image que la société nous renvoie et les dictats, en fait, de la mode, et qui se révèle très, très dangereux. Et comment on peut glisser dans cette maladie qu'est l'anorexie sans vraiment avoir de troubles ailleurs, des troubles... Souvent, on a associé les troubles de l'anorexie à des maltraitances, à des problématiques psychologiques, mais souvent c'est pas ça, c'est simplement des dictats de la mode où on se trouve un petit peu grosse, où la société nous regarde différemment, où on n'est pas intégré, où on a déjà un malaise, qui est souvent le cas à l'adolescence, et où tout d'un coup on trouve une source de ce malaise dans son rapport à son physique, parce qu'on se trouve trop gros ou trop grand, trop petit, enfin, quelles que soient les raisons qu'on peut se trouver comme différence ou non-acceptation par cette société. Et c'était de pouvoir exprimer effectivement au travers de cette nouvelle morte de faim, comment ça peut être facile de glisser et quelles sont les dérives aussi qu'on peut éviter, notamment par rapport à l'entourage. Parce que l'anorexie, souvent, quand on la remarque chez un proche, c'est trop tard. Et comment on peut aussi analyser ou remarquer le problème en amont et éviter peut-être de faire des remarques qui sont aujourd'hui... la société évolue aussi, mais des remarques qui peuvent être considérées comme grossophobes ou... qu'on peut faire par souci d'humour, des petites piques qu'on peut trouver drôles, mais qui peuvent avoir des conséquences extrêmement dramatiques, en tout cas pour les jeunes en construction.
Et c'est ce regard très fin, très subtil que vous portez sur vos personnages, comme ici cette jeune fille qui bascule dans l'anorexie. Mais il y a aussi, par exemple, ces personnes prises par certains, on va dire, travers... existentielles, qui finalement s'isolent, ont de la difficulté à sociabiliser. Je pense à Morte d'impatience, qui est vraiment un tableau tout en finesse dans une narration d'un personnage pour lequel on n'aimerait même pas le critiquer, parce que vous accompagnez le lecteur par la main pour essayer de saisir comment, justement, par petites touches, ce personnage s'enferme. Hein. Donc c'est une narratrice qui ne supporte pas d'attendre. Mais alors, ça va à un point, là il y a une gradation dans celle-ci, par exemple ça commence en page 47, tant de secondes perdues, au lieu d'empoigner directement trois ouvrages à la fois, souvent n'y tenant plus, j'ai arraché le chiffon de la main de ces femmes et astiqué moi-même l'étagère, devant elles pour leur montrer, donner le rythme. Elles ne sont jamais revenues. Ça, c'est le début, quand elle engage ces femmes de ménage et qu'elles ne supportent pas qu'elles soient lentes en faisant le ménage. Alors, il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste une sorte d'agacement insupportable, mais qui a des conséquences lourdes. C'est que plus aucune femme de ménage veut venir voir cette dame, hein, qui souffre de ce travers en disant qu'aller faire les courses, il y a une file d'attente, tout le monde le connaît. Donc le meilleur moyen, c'est d'éviter. Stratégie d'évitement, donc elle ne va plus faire les courses. Et puis finalement, dans la gradation, elle n'a plus d'amis ou de relations amoureuses, parce que ça nécessite d'avoir des étapes dans le lien. Et elle est pressée, elle ne veut pas perdre de temps. Alors on voit un crescendo absolument monstrueux qui fait qu'elle va s'isoler totalement. Et en même temps, on n'a pas envie de lui jeter la pierre.
Oui, c'est un personnage que j'aime bien, parce que je dirais que c'est un de mes principes. Au défaut, l'impatience, et de pouvoir exprimer, si on laissait vivre ces émotions jusqu'à leur paroxysme, en fait, c'est ce qui est le but de cet ouvrage-là, ces femmes qui vivent chacune des émotions différentes, mais poussées à leur paroxysme, eh bien, je pense que moi, je pourrais en arriver là, par manque d'impatience, parce qu'on s'énerve. Et c'est de savoir aussi comment on doit gérer ces défauts, comment on doit les canaliser, et le principe même de la remise en question. Et cette femme, malheureusement, n'a aucune remise en question, ce qui va pousser ses dérives jusqu'à la chute finale que je ne vais pas évoquer ici, mais qui est terrible en fait, oui.
Et puis on a une de vos nouvelles quand même, qui surfe savamment sur le fantastique, c'est Morte de Chaud. Et j'ai trouvé absolument incroyable comment vous mettez dans la peau d'un personnage qui souffre d'une migraine épouvantable, mais la vraie migraine, celle qui est insupportable, où on a l'impression que son cerveau va sortir de son corps tellement et sa boîte crânienne est trop petite, tellement on a mal et on a chaud parce qu'on est migraineux. Et là alors, vous y allez, hein, vous faites plaisir. Il y a une comparaison, une analogie de ces douleurs avec des nains. Ensuite, il y a carrément une manière de voir la réalité complètement déformée quand cette personne arrive enfin dans une pharmacie, où enfin il y a toute une pile de boîtes de médicaments, et là, alors on va pas tout révéler, mais ça bascule carrément dans le fantastique.
C'est le symptôme même de la colère, en fait, qui vous fait voir des choses comme elles ne sont pas. Et cette femme, dont son défaut est la colère, qui est prise par une colère absolue qui surchauffe tout. Et cette analogie, effectivement, on le retrouve aussi chez les gens de notre entourage qui n'arrivent plus à se maîtriser, qui voient des choses qui n'existent pas. Et oui, je me suis beaucoup amusée en écrivant cette nouvelle, même parfois quand je l'ai relue après, je dis mais je ne sais pas où je suis allée chercher ça, c'est vrai. Mais c'est drôle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un ouvrage aussi, bien sûr, que le titre pourrait être contradictoire avec le reste, mais c'est un livre qui est quand même rempli d'humour noir.
Beaucoup d'humour noir, de cynisme, j'allais dire. Des fois, ça tiraille, mais il y a toujours une touche d'humour quand même, surtout la fin d'ailleurs. Mais peut-être parlons aussi d'autres aspects où il y a beaucoup de tendresse, je dirais. Par exemple, dans Morte de Chagrin, où il y a un couple âgé, rien n'est dit littéralement, tout est suggéré entre les mots, le lecteur saisit bien l'enjeu. Vous brossez là le tableau de ces couples qui ont vécu si longtemps ensemble que lorsqu'un va moins bien, sans vouloir tout révéler, l'autre ne peut plus faire de son univers et reconstruire cet univers avec l'absent. Donc il y a quelque chose où la personne continue à fonctionner comme si l'autre est toujours là, comme si finalement rien ne s'était passé. Et on voit là quelque part aussi votre manière de dénoncer socialement la solitude des personnes âgées et puis des conditions qui, comme la fameuse dame qui s'enferme dans son impatience, désocialisent quelque part.
Désocialise, oui, mais c'est aussi une ode à l'amour, en fait, cette nouvelle-là. Le but de ce recueil, c'était d'utiliser les expressions morte, d'y apposer un sentiment et de laisser une femme, toujours une femme, mais de tous les âges, ça va de la petite fille à la femme âgée, vivre cette émotion pleinement jusqu'au bout. C'est-à-dire d'enlever tous les filtres et dire, voilà, comment réagirait cette personne-là si c'est sauter tous les filtres sociaux en fait du carcan qu'on impose en fait. Et là, effectivement, bien sûr, cette femme-là vit une solitude. C'est un drame de la solitude. Où à partir d'un certain âge, vous n'êtes plus amené à travailler, vous n'êtes plus amené à sortir de chez vous, etc. Votre monde se replie dans votre lieu de vie qui se rapetisse au fil du temps. Et vous vivez plus que par habitude, vous avez des habitudes et on le voit souvent chez les personnes âgées qui dès que vous leur changez un bout de rue ou que dès qu'il y a des travaux dans le quartier ou quelque chose change ou l'épicerie ferme, sont complètement démunies. Et c'est cette situation-là qui est évoquée dans cette nouvelle-là, mais surtout c'est une nouvelle d'amour et de comment on peut vivre l'amour quand on a passé toute sa vie auprès d'une personne.
Un amour qui se décline de différentes manières, ça me permet de tisser un lien. Il y a des animaux domestiques, il y en a déjà dans cette nouvelle. Un autre ressurgit, un petit chaton, Nuage, dans Morte de peur. Et je salue, coup de chapeau, pour traiter d'une problématique aussi puissante que la violence intrafamiliale, pour donner un thème général et une couleur à cette nouvelle, à travers les yeux d'un enfant. Et c'est ce qui fait la force de cette nouvelle, c'est qu'on pourrait être complètement effrayé de ce qui s'y passe et pourtant il y a cette magie de l'enfant. L'enfant qui subit, mais qui aussi s'évade par son esprit et puis qui va s'évader tout court, on va le dire comme ça, face à l'adversité et à la souffrance. Donc, l'animal domestique, le petit chaton Nuage qui vient faire lion avec Morte de chagrin, où il y a aussi un animal domestique, mais là c'est en lien avec un enfant, une petite fille qui subit la violence intrafamiliale, et vous arrivez à montrer à travers ce regard d'enfant comment, malgré l'horreur, il y a une possibilité d'évasion par la pensée, la rêverie, l'interprétation infantile de ce qui se passe dans ce monde-là. Et vous n'enlevez rien non plus à la teneur de la gravité. Alors, ce qui est assez impressionnant dans cette nouvelle, c'est qu'à un moment donné, la réalité est toujours bien présente, vous ne vous éloignez pas de la réalité. Il y a même un voisin, par exemple, qui est interpellé, qui demande à la maman de la petite fille, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Vous avez besoin d'en parler? Enfin, qui lance une perche. Et vous montrez très bien comment la mère est enfermée dans un mécanisme et ne peut pas parler.
C'est la nouvelle la plus forte du recueil, hein. C'est une des raisons pour laquelle on a dû la mettre vers la fin, effectivement, parce qu'elle est dure. Mais celle-là, je l'ai traitée un petit peu différemment des autres, hein. Parce que dans chaque nouvelle, hormis celle-ci, c'est toujours le personnage qui subit l'émotion évoquée d'un mort de peur, donc le sentiment de peur. Ce n'est pas l'enfant, c'est pas le protagoniste qui subit ce sentiment-là, c'est le lecteur. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai traité au travers des yeux des enfants. Oui, pour moi, c'était important de traiter cette thématique, de dénoncer en fait l'inaction de l'entourage par rapport à des situations de violence où les gens ne se mêlent pas. Alors c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui, je l'espère, tend à être différent, mais je ne crois pas quand même. Les gens ne se mêlent pas, on ne se mêle pas de ce qui se passe chez vous. On peut être... essayer, tendre une main, mais si la main n'est pas prise, on ne va pas insister plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'était important d'évoquer cet enfant, pour que le lecteur comprenne aussi l'importance d'agir dans des situations de vie qui ne sont pas différentes de ce qui se passe dans la réalité que nous vivons, hein. Et ces thématiques me touchent particulièrement, effectivement. Et pourquoi l'enfant réagit comme ça? Pourquoi c'est évoqué? Je dirais que c'est parfois encore plus violent quand c'est évoqué, parce que le lecteur voit comment se passent les choses. L'enfant ne réalise pas. Mais parce qu'un enfant, il va s'inventer un monde, c'est ce qu'il ne connaît que ça. L'enfant, il ne connaît pas les choses différemment. Il ne sait pas comment ça se passe dans les familles. Pour lui, c'est normal. Donc évidemment qu'il... L'enfant va toujours s'échapper par l'imaginaire et trouver une situation de vie qui est acceptable pour lui, pour pouvoir vivre.
Alors évidemment, rebondissons, parce que c'est la touche la plus puissante, comme vous l'avez très bien dit, Marie-Christine Horn, dans votre recueil « Le nombre de fois où je suis morte ». 13 nouvelles, une introductive qui est la perte de l'enfance, et ensuite une déclinaison sur des personnages féminins qui perdent quelque chose d'eux, symboliquement ou réellement. Et puis la fin, un magnifique hommage à la féminitude, on va le dire comme ça. On ne comprend pas tout de suite quand on lit, et c'est vers la fin où on est complètement bouleversé, surtout si on est lectrice, mais je pense que même les lecteurs seront touchés. J'ai juste envie de donner quelques bribes. Je me souviens des examens à Zurich et de son arrivée paniquée dans ma chambre parce qu'elle n'arrivait pas à insérer ses boules-quies. de cette chambre d'hôtel qu'on a partagée, de son énervement à propos des stores qui refusaient d'obéir à la commande avant de réaliser qu'elle s'acharnait sur la télécommande de la télévision. De cette fête où elle avait accepté de servir au bar et de la fin de soirée où nous plaisantions à tel point que les clients n'osaient plus commander. De la vinaigrette en quantité insuffisante pour tous les convives et de son rire quand j'ai voulu essorer les feuilles de ma laitue dans l'assiette de ma voisine de table. Et vous continuez dans des souvenirs savoureux de partage entre femmes, de petits événements qui font toute la magie de notre vie. Et leur rendre hommage de cette manière, je trouve non seulement original, mais ça a une puissance assez incroyable, c'est qu'on se rend compte, quelque part, par cette fenêtre-là, du rôle des femmes dans notre société.
Justement, ce rôle pour moi il est important parce qu'on grandit par rapport aux amitiés qu'on tisse, par rapport à la famille, par nos proches. Et moi j'adore ces échanges avec les femmes quand elles sont dénuées de, justement de tout ce carcan social qu'on impose aux femmes. Mais quand ce carcan n'est pas là, et souvent vous remarquerez que l'attitude de femmes entre elles change diamétralement lorsqu'un homme apparaît dans la pièce. Et c'est fabuleux et incompréhensible pour moi de voir l'attitude d'une femme changer si un homme est présent, si son homme est présent ou si elle est seule. Et toutes ces anecdotes de vie que j'ai vécues avec des femmes, c'est vrai que souvent les hommes n'étaient pas présents et c'est là où elles se réveillent, naturelles, belles, un peu cinglées, où elles n'ont pas besoin de se maintenir, où elles n'ont pas besoin de faire attention à ce qu'elles expriment. Et une femme, quand elle est libérée de toutes ces choses-là, de toute cette pression, elle est tellement merveilleuse, belle, drôle, intelligente, farfelue. Les femmes sont capables de tout. Les femmes sont capables du meilleur comme du pire d'ailleurs. Hein. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'écris « Mort de jalousie ». Parce qu'une femme poussée dans ses extrémités est capable du meilleur comme elle est capable du pire. Parfois plus que l'homme parce qu'elle ressent, les choses vraiment, entièrement. Elle vit ses émotions. Et je pense que c'est ce qui les rend si magnifiques et si incroyables. Et j'espère que on va arriver un jour où les hommes aussi arriveront à vivre ces émotions sans avoir à subir eux-mêmes ce carcan social qu'on leur impose.
Alors le message est transmis, le message est reçu. Il faut libérer quelque part hein, nos émotions, mais dans le sens évidemment productif et puis socialisant. Mais c'est plus une affaire de genre, c'est une affaire d'individu tout simplement. Ici, dans le nombre de fois où je suis morte, Marie-Christine Horn, vous le proposez à travers la lorgnette du féminin parce que quand même, il faut restituer la place des femmes dans notre société. Marie-Christine Horn, on vous a déjà interviewé plusieurs fois au Radio Littéractif. D'habitude, on vous connaît un peu plus sous la lorgnette du thriller, du polar. Vous avez reçu de nombreux prix. Là, vous êtes plutôt dans la littérature blanche, comme on dit. Hein. Le roman qui est moins thriller polar, mais toujours à veine critique sociale. Comment on quitte cet opus de nouvelles? Est-ce que vous êtes en train d'écrire?
Alors oui, je suis toujours en train d'écrire un petit peu, mais pour l'instant c'est vrai que je viens de sortir trois livres assez rapprochés. Je vais travailler sur une anthologie avec Okama et quelques petits projets comme ça, mais je me réserve une année un peu plus sabbatique parce que c'est bien de faire vivre les personnages, mais parfois c'est bien aussi de vivre soi-même.
Quel joli message d'une écrivaine, d'une autrice. Il faut parfois aussi vivre soi-même avant d'écrire des personnages qui sortent de nos réflexions, puis peut-être d'un endroit que personne ne connaît. Merci infiniment Marie-Christine Horn et je ne peux que recommander nos lectrices et nos lecteurs de lire Le nombre de fois où je suis morte, édition Okama 2024, Marie-Christine Horn, une belle plume suisse romande à suivre absolument. À tout bientôt.
À bientôt, je vous remercie pour votre invitation.
Le Radio Littéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.